Vous êtes sur Radio Orient, il est midi. Bonjour à tous, votre rendez-vous d'information avec Loïc Barrière et François-Xavier de Calonne. Au sommaire de ce point d'actualité, au moins 104 morts, dont 46 enfants, dans les bombardements de l'armée israélienne hier contre la bande de Gaza. Donald Trump assure que l'accord de cessez-le-feu tient malgré tout. Israël dit respecter à nouveau la trêve après avoir frappé hier des dizaines de cibles. Enfin, dans notre dossier du jour, les menaces d'Internet et des réseaux sociaux sur la démocratie et les prochaines élections municipales et présidentielles en France. Le sujet a fait l'objet d'une réunion hier à l'Élysée. Entretien avec un expert en cybersécurité, Farid Temsamani. Israël annonce respecter à nouveau le cessez-le-feu après avoir frappé des dizaines de cibles dans la bande de Gaza. Des bombardements qui ont fait au moins 104 morts, dont 46 enfants, selon un bilan donné par le ministère de la Santé palestinien. Donald Trump assure cependant que rien ne compromettra l'accord de cessez-le-feu qu'il a négocié entre Israël et le Hamas, un accord en vigueur depuis le 10 octobre. La Turquie accuse Israël de mettre en danger les chances d'un arrêt durable des combats et l'établissement de la sécurité pour toute la région. Le Hamas et Israël se sont accusés mutuellement d'être responsables de la violation de la trêve. Dans la journée, des tensions étaient nées au sujet de la restitution des dépouilles d'otages israéliens. Et puis, l'avertissement du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, au Hamas. Il n'y aura pas d'immunité pour la direction du Hamas, ni pour ceux en costume, ni pour ceux cachés dans les tunnels. Une référence notamment aux dirigeants politiques du Hamas qui vivent au Qatar. La France est préoccupée par la situation au Soudan. Le Quai d'Orsay condamne avec fermeté l'extension et l'intensification de l'offensive des forces de soutien rapide à El-Fasher. Après la prise d'El-Fasher, l'Union européenne a dénoncé quant à elle la brutalité des paramilitaires au Soudan et le ciblage ethnique de civils. L'Arabie saoudite, elle, condamne les violations des droits humains. Et c'est dans ce contexte que les deux responsables du programme alimentaire mondial ont reçu l'ordre de quitter le Soudan. Le président syrien Ahmed El-Sharré a échangé avec plusieurs ministres saoudiens à l'occasion de son déplacement à Riyad, à l'occasion de la 9e édition de la conférence de l'initiative pour l'investissement du futur. Parmi les sujets évoqués, la coopération économique et la sécurité. Merci d'avoir eu rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. Le cessez-le-feu mis à mal dans la bande de Gaza. Israël a annoncé respecter à nouveau la trêve, mais c'était après avoir mené des frappes qui ont fait plus de 100 morts. Selon Israël, ces frappes ont eu lieu en représailles à l'attaque qui a tué un soldat israélien. François-Xavier de Calonne.
Oui, de la fumée noire au-dessus de plusieurs endroits du territoire palestinien, de nombreuses victimes. La reprise temporaire des frappes a ravivé chez les habitants de l'enclave palestinienne la terreur d'une reprise de la guerre. L'armée israélienne a donc annoncé un retour au cessez-le-feu, mais c'était après avoir mené des frappes contre des dizaines de cibles. L'armée a ciblé 30 chefs de mouvements armés. Donald Trump avait assuré avant l'annonce de l'arrêt des frappes que rien ne compromettrait l'accord de cessez-le-feu en place depuis le 10 octobre dernier, accord qu'il a négocié entre Israël et le Hamas. Ils ont tué un soldat israélien, donc les Israéliens ripostent et ils devraient riposter selon les mots du président des États-Unis.
Mais François-Xavier, le Hamas a démenti avoir attaqué les troupes israéliennes. Le mouvement islamiste a réaffirmé son engagement envers le cessez-le-feu.
Oui, le Hamas avait aussi ce mardi annoncé le report de la remise d'une nouvelle dépouille d'otages. Le même jour, le gouvernement israélien a également accusé le mouvement d'avoir mis en scène la découverte supposée d'un corps d'otage et a diffusé des images pour étayer ses dires. Au lendemain de la restitution d'un corps, Israël a affirmé que ces restes humains appartiennent déjà à un corps d'otage rendu. Une affirmation qui suscite bien entendu une très forte émotion, voire un effroi. En vertu de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, le Hamas a libéré au 13 octobre l'ensemble des 20 otages vivants qu'il retenait à Gaza depuis son attaque contre Israël le 7 octobre 2023. Il devait aussi rendre à cette date les 28 derniers corps, mais n'en a restitué seulement 15 jusque-là. Malgré ce cessez-le-feu, la situation humanitaire reste catastrophique dans la bande de Gaza, l'enclave palestinienne où plus de 68 500 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées par l'armée israélienne depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.
Merci François-Xavier de Calonne. Dans notre dossier du jour, les menaces d'Internet et des réseaux sociaux sur la démocratie et les élections en France. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre ce mardi à l'Élysée entre le président Macron et 200 experts avec un enjeu: comment empêcher les réseaux sociaux de perturber les municipales de 2026 et la présidentielle de 2027. Entretien avec Farid Temsamani, expert en cybersécurité et consultant en intelligence économique. Pour lui, il faut miser sur l'éducation.
C'est toujours pareil, c'est les moyens que vous allez allouer, notamment dès le plus jeune âge, notamment au collège. On s'aperçoit que les collégiens, ils doivent avoir dans la construction de l'esprit critique, justement, la capacité d'éduquer nos enfants. La réalité, elle est aussi simple que ça. Mais ça nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir les moyens, ça nécessite de donner les moyens au corps éducatif, de les former également.
Donc apprendre à distinguer une information de ce qui n'en est pas une, ça c'est fondamental et c'est ce qu'il faut faire dès le plus jeune âge. Hein. C'est ce que vous dites quant à la question des périodes de réserve sur les réseaux sociaux avant des élections, comme c'est le cas sur les médias traditionnels. Est-ce que c'est envisageable?
Moi, je pense que c'est complètement dépassé. Vous savez, on a toujours cet embargo, par exemple, vous savez, les soirs d'élections, même pas véhiculer des résultats. En réalité, elles le sont aujourd'hui. Vous allez sur tous les réseaux sociaux, vous avez des gens qui vont s'exprimer. Alors, c'est complètement hypocrite en la matière.
Et vous, Farid Temsamani, vous êtes expert en cybersécurité. La France dispose-t-elle des moyens techniques pour contrer ce type de manipulation?
Pas suffisamment, à mon goût, à tel point qu'un certain nombre d'organismes de l'État font appel parfois même à des structures privées, voire même à parfois des hackers eux-mêmes, justement, pour pouvoir les accompagner.
Quand vous parlez d'éducation, en réalité, c'est trop tard pour les échéances à venir pour les municipales de 2026 et la présidentielle de 2027.
Complètement, c'est trop tard. Et il faut s'attendre à ce que les élections municipales, les prochaines législatives et surtout la prochaine présidentielle aient son énorme lot justement de fausses informations et de manipulations. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le principe de la propagande électorale d'une certaine manière. Je suis perplexe, mais j'ai envie d'être optimiste et de me dire, voilà, l'avenir nous donnera toujours raison à la vérité, mais ce n'est pas évident sur le moment.
De quel ordre évaluez-vous le danger d'une manipulation des élections de 2026, les municipales, et de la prochaine présidentielle de 2027? Ces élections risquent-elles tout simplement d'être tronquées par ce type de manipulation?
L'élection présidentielle, par définition, va avoir son lot de fausses informations. Et là, ça va être très dangereux. Pourquoi? Parce qu'une élection présidentielle se joue à peu de voix, en réalité. Donc, moi, le degré de risque, d'une certaine manière, sur l'élection présidentielle, pour moi, il est énorme. Il était à moins de 5% lors des dernières présidentielles. Là, il va augmenter. On sera à plus de, à mon avis, au moins 20%, 25% de risque, justement, de gens qui vont pouvoir voter dans un sens ou dans un autre à partir d'une fausse information. Quant aux municipales, en réalité, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les municipales, généralement, les écarts sont beaucoup plus faibles d'un point de vue des résultats électoraux. Mais vous allez avoir des gens qui vont voter en fonction de fausses informations. Et on sera à peu près pareil dans ces mêmes ordres que pour la présidentielle. Et c'est là que c'est très dangereux. Et on va avoir Je suis persuadé, sur les élections municipales, des communes qui vont basculer de manière très claire à partir de fake news, à partir de fausses informations. Et la difficulté, c'est que la propagande électorale, ou en tout cas la campagne électorale qui a lieu avant les échéances, en fait, sera de plus en plus courte. On le voit pertinemment aujourd'hui. On passe d'un sujet à l'autre de manière tellement volatile que les gens vont garder en mémoire, on l'a tous, parfois on voit passer des choses qui sont complètement idiotes, mais on le garde en mémoire. C'est ce qui va permettre justement d'avoir, à mon avis, des élections complètement biaisées.
Farid Temsamani, expert en cybersécurité et consultant en intelligence économique, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Merci à Raymond Jouan, à la technique. Bonne suite de programme sur Radio Orient.